J'ai rien vu, j'ai rien entendu et je n'ai rien à dire. Voilà une maxime sage qui permet à la plupart de ceux qui l'appliquent de mener une vie paisible. Mais ce n'est pas toujours évident à mettre en pratique. Si par exemple je suis témoin d'un crime, je me trouve instantanément confronté à un problème de conscience. Vais-je témoigner en faveur de la victime ou me retirer du jeu sous prétexte que je veux qu'on me laisse tranquille? Un passage du livre des Proverbes dit « Délivre ceux que l'on entraîne à la mort et sauve ceux qui vont chancelant au supplice. Car si tu dis « Je ne le savais pas », celui qui sait ce qui se passe au fond des cœurs, ne discerne-t-il pas, lui ? Oui, celui qui protège ta vie le sait, et il rendra à chacun selon ses actes. Celui qui prend la décision de plaider en faveur d'un innocent risque de mettre sa tête sur le bio. Il enclenche un processus qui va lui causer des soucis, lui faire perdre du temps et de l'argent. Il met en marche une pompe à purin qui va l'éclabousser. Mais face au mal et à l'injustice, le devoir de tout un chacun, et en particulier d'un croyant, est de témoigner pour la vérité, le droit et pour ce qui est juste. Je continue à lire dans le chapitre 5 de la première épître de Jean. « Nous acceptons le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu est bien supérieur. » Et ce témoignage, c'est celui que Dieu rend à son Fils. Verset 9. Dans les sociétés de type démocratique, on écoute les témoignages humains une fois que les témoins sont reconnus dignes de foi. C'était déjà le cas sous la loi de Moïse, dans laquelle il est écrit « La déposition d'un seul témoin ne suffira pas pour établir la culpabilité d'un homme accusé d'un crime, d'un délit ou d'une faute, quelle qu'elle soit, on ne pourra instruire l'affaire qu'après avoir entendu les déclarations de deux ou de trois témoins. Notre système judiciaire fonctionne à peu près sur ce modèle, puisque, malgré l'apport d'une technologie de plus en plus pointue, il tient toujours compte du témoignage des hommes. Nous sommes éloignés du ministère de Jésus de presque 2000 ans. Ce que nous savons de lui a été couché sur le parchemin par des gens qui furent des témoins oculaires de sa vie et de son œuvre, ou qui reçurent une révélation de Dieu et qui ont été inspirés par le Saint-Esprit. Étant donné qu'on ne peut pas prouver que les écrivains sacrés ont écrit la stricte vérité, chacun doit décider pour lui-même de les croire ou pas. Au premier siècle, des gens ont assisté au baptême de Jésus. Ils ont vu le Saint-Esprit descendre sur lui sous la forme d'une colombe. D'autres ont entendu son enseignement, bénéficié de ses miracles, assisté à sa mort sur la croix, à sa mise au tombeau, ou l'ont vu ressusciter. Les apôtres ont consacré toute leur vie à témoigner de tous les événements qui ont entouré Jésus depuis sa naissance jusqu'à son ascension dans les cieux. Tous les croyants acceptent par la foi le témoignage de ces hommes et l'inspiration de leurs écrits. De toute façon, les déclarés menteurs ou hystériques et victimes de phénomènes hallucinatoires posent davantage de problèmes que de croire en ce qu'ils ont dit. Voilà pourquoi même le plus anticlérical des athées reconnaît la véracité des faits relatés dans les livres d'histoire et les encyclopédies concernant le personnage historique appelé Jésus. Cela dit, chacun sait qu'un même événement peut être sujet à différentes interprétations. Tous ceux dont le témoignage figure dans le Nouveau Testament croyaient que l'homme Jésus était aussi le Christ, le Fils de Dieu, la seconde personne de la Trinité et le Messie qui devait venir pour établir son royaume. Et ils étaient prêts à donner leur vie pour défendre ce qu'ils savaient être la plus grande vérité de tous les temps, et la plupart d'entre eux sont d'ailleurs morts martyrs. « Pourtant, dit Jean, si nous acceptons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est bien supérieur et ce témoignage, c'est celui que Dieu rend à son Fils. Alors comment le Père a-t-il rendu témoignage à son Fils ? Eh bien, Il y a tout d'abord eu la voix audible au moment de son baptême. Puis, durant tout son ministère, Jésus a manifesté une sagesse et donné un enseignement qui était tellement extraordinaire que même ses ennemis étaient interloqués. À ce sujet, Jean nous rapporte un incident étonnant. Après avoir entendu que Jésus avait clairement attesté qu'il avait été envoyé par le Père, le texte nous informe que les chefs des prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes du temple pour procéder à son arrestation. Mais, après l'avoir écouté, il est dit que les gardes du temple retournèrent auprès des chefs des prêtres et des pharisiens. Ceux-ci leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Ils répondirent « Personne n'a jamais parlé comme cet homme. » La mort de Jésus fut entourée d'événements surnaturels qui étaient d'origine divine. Des ténèbres qui surgissent en plein après-midi, un tremblement de terre qui ouvre des caveaux d'où sortent des morts ressuscités, l'énorme rideau du temple qui se déchire tout seul de haut en bas. Cependant, la plus grande preuve de l'origine divine du Christ ne réside pas tant dans ses paroles que dans les œuvres que le Père lui a permis de faire. L'apôtre Jean rapporte que Jésus a lui-même dit « Oui, Jean-Baptiste était vraiment comme un flambeau que l'on allume pour qu'il répande sa clarté. Quant à moi, j'ai en ma faveur un témoignage qui a plus de poids que celui de Jean. C'est celui des œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Oui, ces œuvres que j'accomplis attestent clairement que le Père m'a envoyé. De plus, le Père lui-même qui m'a envoyé a témoigné en ma faveur. Vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu sa face. » Fin de citation. Jésus n'était pas le seul rabbin itinérant qui parcourait la Galilée, qui était entouré de disciples et qui enseignait la bonne parole. Par contre, il était le seul à faire des miracles extraordinaires dans le but de manifester la compassion du Père et d'authentifier sa mission. L'offre de salut et l'instauration du royaume de Dieu en sa personne. Je continue le texte de 1 Jean. « Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas le témoignage que Dieu rend à son Fils. » Verset 10. Ma prise de position devant le témoignage que le Père rend à Jésus-Christ détermine ma destinée éternelle. C'est très simple, car il n'y a que deux réponses possibles. Soit je crois ce que les Écritures enseignent et j'agis en conséquence, soit je n'y crois pas, sachant que tergiverser ou hésiter équivaut à un rejet. Face à Jésus, il n'y a pas d'entre-deux. La neutralité n'existe pas, car il a lui-même dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. » Pour celui qui croit au témoignage que la parole de Dieu rend à Jésus, il croit au Fils de Dieu et possède ce témoignage en lui-même. En d'autres mots, il est convaincu en son âme et conscience que Jésus, homme, est la seconde personne de la Trinité et que ses paroles sont la vérité. Par contre, nier que Jésus est celui qu'il a dit être, c'est refuser de croire au témoignage que le Père a rendu à son Fils. C'est donc faire Dieu menteur, ce qui est un affront à la nature sainte de Dieu et donc un blasphème, car Dieu est la vérité parfaite et ne peut mentir. Je continue le texte. Et qu'affirme ce témoignage? Le témoignage que Dieu rend à son Fils. Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Verset 11. L'objectif suprême que Dieu poursuit en rendant témoignage à son Fils Jésus est de permettre aux pécheurs de recevoir la vie éternelle. Dans la prière dite sacerdotale, Jésus a dit « La vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle ne consiste pas seulement en une durée de temps qui ne finit jamais, mais en une qualité de vie. Posséder la vie éternelle est bien plus que de ne pas être condamné. C'est connaître Dieu dans le sens fort du terme. C'est prendre part à qui il est, à sa gloire, sa sainteté et à la joie céleste et parfaite pour l'éternité. La vie éternelle n'est accordée qu'à ceux qui croient au témoignage de Dieu le Père et qui placent leur foi dans son Fils. Le message du salut est exclusif et absolument intolérant parce qu'il affirme qu'il n'existe pas plusieurs chemins qui mènent à Dieu, mais un seul, et c'est par Jésus-Christ. L'apôtre Pierre a déclaré « C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. » Selon les normes actuelles de notre société humaniste où tout le monde il est pareil, ce que nous considérons comme la bonne nouvelle de Jésus est anachronique et intolérable aux oreilles de nos contemporains. Il ne faut donc pas s'étonner si la plupart d'entre eux nous rejettent ainsi que notre message. Je continue le texte de 1 Jean. « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Verset 12. Il n'est guère possible de donner une définition plus simple et plus brève de la vie éternelle. Certaines personnes disent « J'aimerais bien savoir si oui ou non j'ai la vie éternelle. » Mais c'est prendre le problème à l'envers. La question n'est pas de savoir ce que je crois ou pas, mais en qui je crois. La vie éternelle ne s'obtient pas en faisant quelque chose, par des rites et des bonnes œuvres, par des accomplissements humains aussi nobles soient-ils. La vie éternelle est indépendante de ma naissance ou de la couleur de ma peau, de mon éducation ou de mon rang social, de mon intelligence ou de mon occupation professionnelle, de mon affiliation religieuse ou de ma participation à un culte, de mes prières ou de mes souffrances, contrairement à ce que les grands mystiques béatifiés essayent de nous faire croire. La souffrance est une conséquence de la malédiction de Dieu sur l'homme et il n'y a aucun mérite à souffrir. À ce sujet, la parabole du mauvais riche et de Lazare que nous raconte Luc nous met mal à l'aise parce qu'elle semble dire que si la vie n'est pas juste, dans l'au-delà, tout sera rééquilibré. Lazare a souffert ici-bas et il est consolé dans le royaume des cieux. Le mauvais riche a mené une vie de rêve et donc il est automatiquement dans la souffrance après sa mort. Cette histoire nous dérange parce qu'on dirait qu'elle enseigne que si tout va bien pour vous ici-bas, vous avez une réservation en enfer. Mais si vous êtes un SDF qui traîne dans les rues, une place au ciel vous attend. Mais là n'est évidemment pas l'enseignement de cette parabole qui était d'abord dirigée contre la secte des Sadducéens, car ils étaient énormément riches, ils ne croyaient pas en la résurrection ou en la vie après la mort, et ce n'était pas la compassion qui les étouffait. Quant à Lazare, si des anges sont venus le chercher, ce n'est pas parce que c'était un nécessiteux misérable, mais parce que malgré sa situation épouvantable, il s'attendait à Dieu. L'apôtre Jean est absolument clair. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Point barre. Le Jésus des Évangiles est un personnage merveilleux parce qu'il est unique. Il est Dieu manifesté en homme. Personne n'est comme lui. Il est le Fils unique de Dieu et le seul qui puisse me sauver. Il est mort sur la croix parce que seul son sacrifice parfait pouvait effacer mes péchés. Il est ressuscité et il est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux. Il est mon refuge et le garant de ma vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui croit cette déclaration honore Dieu parce qu'il le prend au mot. En plaçant ma confiance en Jésus, j'affirme que Dieu le Père a dit la vérité. La foi au Fils de Dieu est la seule ancre qui résiste à toutes les tempêtes, et chacun sait qu'elles sont nombreuses et inévitables, car la vie est remplie d'incertitudes avec peu de garanties et peu de ressources sur lesquelles compter. Job a résumé la fragilité humaine quand il a dit « L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler, né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. » La maladie, un accident, la violence ou la vieillesse nous surprennent tous un jour, car nous sommes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Dans une prière, Moïse dit « Le temps de notre vie, c'est 70 ans, au mieux 80 ans pour les plus vigoureux, et leur agitation n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. » Fin de citation. Entre-temps, notre pèlerinage ici-bas est parsemé de doutes, de questions et d'incertitudes. Les emplois disparaissent parce que pour rester compétitives ou pour engranger un maximum de profits, les entreprises s'implantent dans les pays où la main-d'œuvre est le moins chère possible. Il nous faut constamment faire face à l'instabilité des marchés boursiers et aux fluctuations de l'économie. Nous voguons de crise en crise. Au niveau des relations humaines, c'est pas la joie non plus, car celles-ci se font et se